Vous êtes sur RTL. 8h.
RTL Soir, Antoine Cavallero, Marion Calais, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Isabelle, bonsoir Antoine, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, vos deux heures d'info. Jusqu'à 20h avec Antoine, ce premier hommage à Lola, torturée et tuée il y a une semaine à Paris, et la colère de ses parents.
Par la voix de leur avocate, ils demandent que cesse immédiatement toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. On sera dans le village d'origine des parents de l'adolescente où un hommage était organisé aujourd'hui.
Les autres titres à présent avec vous, Antoine.
On vient de l'apprendre, la justice belge refuse de remettre l'imam Iqiyoussen à la France. Un rêve qui s'éloigne. Les ventes de maisons individuelles en baisse d'environ 30%. Et puis les adieux au terrain de notre Ribéry National. Le joueur officialise sa retraite.
Après le journal La Brigade RTL, soupçon de triche et plainte en diffamation. Le monde des échecs en émoi. À 18h15, le ski face au réchauffement climatique. Et pour notre invité, il y a du boulot. Le vice-champion olympique de descente, Yoann Claret, est l'invité de RTL Soir. Jusqu'à 20h également, malaise en Macronie, dans les dessous de l'actu. Et à partir de 18h40, on va refaire nos régions, vos 20 minutes d'actu au plus près de chez vous.
Avec ce soir, des chevaux pour remettre du baume au cœur à des malades du cancer, une piscine qui s'apprête à fermer, une choucroute aux poissons, oui, vous avez bien entendu, et un petit tour du côté du Mont Fuji avec un languedocien installé là-bas depuis 20 ans.
À 19h15, ils refont la France, le regard aiguisé toujours des correspondants de la presse étrangère sur l'actu hexagonale autour d'Anaïs Bouton. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Valérie Quintin, bonsoir.
Bonsoir.
La tendance.
On a des orages ce soir, de gros orages entre le Massif central et la Bourgogne. Tout ce petit monde va filer par l'Est demain pour nous laisser du soleil.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Marion Calais, Antoine Cavallero.
Une semaine après le terrible drame de la petite Lola, cette jeune fille tuée et torturée à Paris, Emmanuel Macron prend la parole. C'était cet après-midi à Bruxelles, en marge du Conseil européen.
Qu'est-ce qui nous touche tous ? C'est l'atrocité de ce crime. Quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là, c'est ça qui est vertigineux. Et donc moi je pense surtout aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation.
Et de son côté, la famille de Lola hausse le ton après avoir demandé d'éviter toute récupération politique. Elle réclame que cesse instamment et soit retirée toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. Elle le fait savoir par un communiqué publié par leur avocate.
Appel lancé au moment où se déroule un premier hommage à Lola à Foucreuil dans le Pas-de-Calais, la commune d'origine des parents. Hommage dans l'intimité et la pudeur, Franck Hanson.
Oui, en effet, dans la sobriété, la dignité, comme le souhaitaient les parents de Lola, des habitants du secteur, des parents, grands-parents, des jeunes également, viennent déposer un mot ou des fleurs blanches devant un grand portrait de la collégienne en présence de ses deux frères qui restent dignes ici à l'entrée du foyer communal. Des anonymes souvent gagnés par l'émotion.
C'est pour accompagner la maman de Lola, le papa. On est tous maman et papa de Lola en ce moment. C'est quelque chose de terrifiant, ce qui est arrivé.
Ça fait partie, je ne sais pas, de deux mois, je ne sais pas, c'est tellement horrible ce qui est arrivé à cette petite fille. Oui, j'ai fait 80 km, le but c'était de venir déposer ma carte.
Sous une étroite surveillance policière, ce moment de recueillement est aussi malgré tout pour certains l'occasion d'exprimer une certaine colère, comme pour ces retraités du Béthunois.
Plus jamais des trucs comme ça arrivent, quoi, parce que c'est terrible. On habite à une dizaine de kilomètres, quoi, mais on a des petits-enfants et on y pense. Quoi, et... Ah bah bien sûr que j'ai la colère, attendez monsieur, il y a une enfant de 12 ans qui est décédée, si on n'est pas en colère, on n'y sera jamais. Hein.
Et la mairie de Foucreuil avait donné comme consigne de n'afficher aucune consigne, aucune couleur politique, un message qui semble passer, même si la députée du Rassemblement National est passée ici pour déposer une gerbe discrètement.
Franck Hanson en direct de Foucreuil pour RTL. Merci à vous. On le rappelle, les obsèques de la jeune fille auront lieu lundi à Lillers, la ville d'origine de la maman de Lola.
RTL Soir.
Et à 18h04, ce nouveau rebondissement dans l'affaire de l'imam Iqiyoussen.
Trois semaines après son arrestation en Belgique, la justice belge refuse de le remettre à la France. Elena Loison, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. La décision vient d'être rendue.
Oui, la justice belge l'a annoncé il y a une petite demi-heure. L'imam ne sera pas remis aux autorités françaises. Le parquet général a maintenant 24 heures pour décider s'il fait ou non appel de cette décision. Et avec le week-end, cela veut dire qu'Hassani Kusen restera derrière les barreaux encore au moins jusqu'à lundi après-midi. Il va maintenant être prévenu par l'administration pénitentiaire de la décision en attendant un éventuel appel. On ignore pour l'instant les raisons précises de ce refus de la justice belge. L'avocate française de l'imam évoque l'illégalité du mandat d'arrêt européen. On en saura plus lundi, le temps que la décision détaillée soit communiquée. En attendant, ses proches se disent très heureux, très sereins aussi pour la suite et précisent que, quoi qu'il arrive, ils feront tout pour s'opposer à l'extradition.
Elena Loiseau, correspondante RTL en Belgique.
C'est un rêve encore aujourd'hui pour de nombreux Français, un rêve qui s'éloigne, celui du petit pavillon avec jardin.
La vente de maisons neuves est en baisse de 27% depuis le début de l'année. Arnaud Touche, bonsoir.
Bonsoir.
Ça s'explique notamment par les fortes remontées des taux d'emprunt.
Absolument, et les banques sont de plus en plus regardantes sur les dossiers et le marché recule nettement, comme le note Sophie Autong, directrice stratégie chez Finance Conseil.
On a une baisse de volume de crédit qui est constaté hein, depuis début septembre jusqu'à aujourd'hui, on a quand même un volume en baisse de moins 26% et moins 30%, donc en volume ça ne passe pas, voilà.
Et quand bien même un crédit est accordé, encore faut-il construire cette fameuse maison. La pénurie de matériel et la flambée du prix de certains matériaux n'aident pas, comme le constate Grégory Monod, président du Pôle Habitat, la Fédération Française du Bâtiment, qui explique que les ventes de maisons neuves ne devraient pas décoller de sitôt.
Je pense que le niveau va continuer à baisser. Hein. Entre le mois de septembre 2021 et le mois de septembre 2022, on est sur moins 50%. Donc on devrait avoir un niveau de vente qui devrait revenir à peu près à celui de 2014. Donc un niveau très bas à l'époque.
Et pour éviter cela, la Fédération du Bâtiment souhaite le retour du prêt à taux zéro plus souple et un crédit d'impôt pour les nouveaux propriétaires.
Merci Arnaud. Arnaud Touche du service économie de RTL. Un mot de la crise des carburants qui se poursuit en ce jour de vacances scolaires. Vous êtes nombreux à encore faire la queue devant les stations essence. Environ 17% des stations-service qui manquent toujours d'au moins un carburant.
Elles sont les grandes oubliées du bouclier tarifaire. Le gouvernement compte aider les entreprises à payer leurs factures d'énergie.
L'État prévoit une enveloppe de 7 milliards d'euros destinée aux petites et moyennes entreprises. Emmanuel Macron promet des annonces concrètes dans les prochains jours. Déclaration faite à Bruxelles à l'issue du sommet européen consacré à cette crise de l'énergie. Autre annonce du président de la République à retenir, le retrait de la France du traité de la charte de l'énergie. C'est une mesure qui a été réclamée par les associations de défense de l'environnement.
Et puis, chassé Boris Johnson par la porte, le voici qui revient, Antoine, par la fenêtre.
24 heures après la démission de Liz Truss, l'ex-premier ministre fantasque pourrait bien lui succéder. Trois mois seulement après avoir quitté le 10 Downing Street, ses soutiens se font de plus en plus nombreux. Marie Billon, vous vous trouvez dans son ancienne circonscription à Henley-on-Thames, ville de 11 000 habitants entre Londres et Oxford. Et ici, il est toujours aussi populaire.
Eh oui, alors Jonathan fait partie de ceux qui se sont pris le bec avec Boris Johnson. Il a quitté le parti conservateur, déçu du Premier ministre, mais maintenant, il aimerait bien que Bojo revienne au pouvoir et pense même à reprendre sa carte de membre.
Le Daily Express titre, ce n'est pas possible, mais bien sûr que c'est possible. Il a de l'expérience et il est populaire. Bon, il a bu quelques verres qu'il n'aurait pas dû boire, mais c'est un gars bien sympathique.
Jonathan arrive dans le café tenu par Lorraine, qui est aussi une élue locale conservatrice. Elle est restée fidèle à Boris Johnson malgré tout.
Il pensait qu'on pourrait s'en sortir sans lui, mais maintenant qu'on a connu pire, on réalise ce à côté de quoi on est passé.
C'est aussi l'opinion de plusieurs clients de Lorraine.
Je suis un fan de Boris à 100%. Je ne sais pas s'il serait bon de retour à son poste, mais je pense que c'est le seul qui pourrait gérer la situation.
La question est, si son parti lui fait confiance, Boris Johnson saurait-il se faire accepter par le pays tout entier? Eh bien, il faudrait vraiment qu'il montre qu'il est un Bojo nouveau.
Merci Marie Billon, correspondante RTL en Angleterre. Et ce soir, pour l'instant, une seule candidate s'est déclarée, l'actuelle ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordaunt.
Allez, dans un instant, votre journal se poursuit avec cette manifestation devant un lycée de Clermont-Ferrand parmi les protestataires. Des lycéennes portant des abayas, le débat sur les tenues religieuses à l'école relancé. À tout de suite.
Marion Calais.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
Marion Calais,
RTL Soir.
Et la suite du journal avec Antoine Cavaillerou et le débat sur les tenues religieuses à l'école qui s'invite dans un lycée de Clermont-Ferrand.
150 personnes ont manifesté mercredi devant le lycée Ambroise Brugière contre la direction de l'établissement accusée de ne pas laisser les élèves s'habiller librement. Mais certaines lycéennes veulent porter l'abaya, une robe traditionnelle et ample qui recouvre tout le corps. Frédéric Perruche, vous êtes devant le lycée pour RTL. Vous avez rencontré des lycéennes qui veulent s'habiller comme elles le veulent.
Aujourd'hui, cette jeune élève de seconde est en jean, mais l'abaya, c'est une tenue qu'elle met régulièrement au lycée et en dehors, un vêtement comme un autre, assure-t-elle.
Parce que c'est une robe, c'est normal. C'est pas un vêtement islamique ou autre, c'est un vêtement.
C'est pas une revendication.
Non, voilà, c'est juste un vêtement. C'est nos choix, c'est notre corps, on porte ce qu'on veut. À un lycée, c'est pas un proviseur qui va me dire de porter ce que je veux ou ce que je veux pas. C'est moi, le matin, je regarde ma garde-robe et je vois une robe, j'ai envie de la mettre. C'est rien.
Dans cet immense lycée qui compte 1300 élèves, une bonne dizaine de jeunes filles portent cette tenue depuis des années pour certaines. D'où leur incompréhension aujourd'hui face à la polémique, explique Nadia.
La abaya et le djellaba et tout, c'est pas du tout religieux. Ça a jamais été écrit dans le Coran et tout. C'est juste une tenue, une robe longue. Une robe longue et ample.
Donc c'est pas religieux.
C'est pas du tout religieux. Je comprends pas pourquoi ça dérange.
À la différence du voile, la abaya n'est pas formellement interdite dans les lycées, mais les proviseurs restent vigilants pour prévenir toute velléité de prosélytisme religieux par le biais de cette tenue.
Merci Frédéric Perruche, correspondant RTL en Auvergne-Rhône-Alpes.
Le foot à présent, RTL vous en parlait il y a deux semaines, cette fois c'est officiel, hein, Franck Ribéry prend sa retraite. Il a publié cette vidéo cet après-midi sur les réseaux sociaux.
Chers amis, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous annoncer que le moment est venu pour moi d'arrêter le football. Malgré les efforts que j'ai consentis ces trois derniers mois, la douleur à mon genou n'a fait qu'empirer et les médecins sont formels. Je n'ai plus le choix. Il faut que j'arrête de jouer. Je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel. C'est la fin d'un beau chapitre de ma vie. Alors je vous dis à très bientôt pour le début d'un nouveau beau chapitre. Je vous aime. Merci encore. À bientôt.
La déclaration d'amour de l'enfant de Boulogne-sur-Mer, carrière exceptionnelle à l'OM, au Bayern Munich, son image avec les Bleus malheureusement écornée après le fiasco de Naïsna en 2010. À 39 ans, Franck Ribéry raccroche les crampons mais reste dans son club italien de la Salernitana en tant qu'ambassadeur.
Et voilà, vous l'avez dit, Salernitana, ce soir en Ligue 1, Ajaccio PSG, vous avez réussi. On y reviendra tout à l'heure avec Nicolas Georgeroux en Corse dans le journal de 19h. La météo à présent, Valérie Quintin. Alors demain, pas mal, on en profite et dimanche, on reste sous la couette.
C'est un petit peu l'idée. C'est un peu l'idée. On a encore des orages ce soir qui circulent entre le Massif central, la Bourgogne et la région Rhône-Alpes. Ça va quitter le pays assez lentement. Derrière, on va retrouver un temps ensoleillé demain. Mais attention, ce sera quand même pas pour tout le monde. Sur le flanc est, entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes, ça restera assez nuageux avec quelques averses. Le long des côtes de la Manche, un ciel un petit peu nuageux aussi. Pour les autres, donc du soleil, des températures comprises entre 9 et 18 degrés au réveil, 19 à 28 dans l'après-midi, 21 degrés encore demain après-midi à Paris, à Chambéry ou encore à Rennes. Températures qui vont grimper un peu dimanche,
encore
malgré la pluie.
Malgré la pluie. Voilà. Bon, très bien. À tout à l'heure, oui. Valérie.
La brigade RTL soir.
La brigade RTL autour de ces soupçons de triche qui secouent le monde feutré des échecs. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Correspondant de RTL aux États-Unis, au cœur de l'affaire, il y a un jeune Américain, Hans Niemann.
Oui, on parle d'affaires du siècle hein, dans le milieu. L'Américain, jeune prodige de 19 ans, bat le 5 septembre dernier le quintuple champion du monde. Alors ce dernier quitte la salle précipitamment, en colère, et rapidement il accuse son adversaire de tricher. Appuyé en cela par une plateforme d'échecs reconnue, chess.com, qui diffuse un rapport de 72 pages selon lequel Niemann aurait triché plus de 100 parties en ligne sur son site. Alors en effet, le jeune Américain, c'est ce qui est troublant, admet avoir triché deux fois à l'âge de 12 ans et 16 ans, mais lors de parties en ligne et pas lors de parties physiques. Concernant la partie en question, certains l'accusent d'avoir utilisé des perles anales connectées. Explication, un complice qui lui avait accès à une intelligence artificielle lui aurait envoyé des messages codés via des vibrations dans l'anus. Il s'est donc dit prêt à jouer nu pour prouver son talent et son innocence.
Oui, parce que son jeune Américain, il vient de riposter, hein, notamment contre la vedette des échecs, Magnus Carlsen. Il porte d'ailleurs plainte pour diffamation.
Oui, parce qu'ils pensent que le champion du monde et le site sont de mèche pour une bonne raison. La plateforme a entamé en effet une procédure de rachat de Play Magnus, qui est l'entreprise de Carlsen, et ce pour 83 millions de dollars. Les deux parties auraient eu peur que le jeune prodige ne mette en danger la marque multimillionnaire en lui infligeant d'autres défaites. À la justice maintenant de décider qui est le maître des échecs ou le maître de l'arnaque.
Voilà, c'est un peu Dallas dans le monde des échecs. Brigade RTL, signé Lionel Gendron. Merci. La suite de RTL Soir dans un instant, avec un champion très remonté, des courses trop tôt dans la saison et de la neige qui vient à manquer, le skieur Johan Claret, vice-champion olympique de descente et l'invité de RTL Soir juste après ça.
Marion Calais,
RTL Soir jusqu'à 19h15. Marion Calais,
l'invité d'RTL Soir.
Le coup de gueule ce soir d'un des champions du ski français. Bonsoir Johan Claret.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous êtes vice-champion olympique de descente et alors que la saison de ski est lancée ce week-end, vous avez choisi de faire entendre votre voix pour critiquer les choix de la Fédération internationale de ski. Dans votre viseur, il y a cette nouvelle étape de la Coupe du Monde le week-end prochain. Départ à 3800 mètres d'altitude en Suisse, arrivée en Italie. C'est quoi le problème de cette course ?
Le principal problème, je crois que c'est la date, déjà pour commencer. Essayer de faire une descente de Coupe du Monde, comme vous l'avez dit, avec plus de 1000 mètres de dénivelé, 4 km de piste en octobre, ça reste très compliqué. On sait que chaque année, moi je suis témoin de ça, les glaciers sur les zones glaciaires, il y a de moins en moins de neige, les étés sont de plus en plus chauds. Et effectivement, les automnes aussi sont de plus en plus chauds. Donc essayer d'organiser une course de Coupe du Monde à cette période, c'est vraiment, pour moi, c'est une hérésie en tout cas. C'est sûr que ça va pas dans le sens qu'il faudrait. Et j'en suis vraiment désolé, parce que je pense que notre sport mérite un petit peu mieux que ça. Il fallait revoir le calendrier de manière un petit peu plus intelligente pour pouvoir faire une course dans un état plutôt correct et avec un beau spectacle. Si on avait mis cette course au mois de mars ou d'avril, après une saison hivernale avec des conditions de neige qui aurait demandé beaucoup moins d'investissement matériel, humain et écologique, ça aurait été je pense bien pour tout le monde et ça aurait été bien plus facile à suivre pour le public.
Parce qu'il y a plusieurs choses en réalité dans ce que va nécessiter l'organisation de cette nouvelle étape. Il y a notamment d'abord la question de la neige, parce qu'on a beau être à, pour ce qui est de l'arrivée, à 2800 mètres d'altitude, aujourd'hui il n'y a pas de neige à l'arrivée de cette course.
Non, effectivement, il manque 300 à 500 mètres de neige, où il n'y a pas du tout de neige, où c'est vraiment un endroit où ils avaient prévu de faire de la neige artificielle, ce dont on a l'habitude hein, sur le circuit de la Coupe du Monde, faire de la neige artificielle, ce qui est en soi une habitude, mais l'hiver, elle est possiblement crachable, la neige artificielle, si je puis dire, c'est avec du froid, avec beaucoup de froid, et faire ça au mois d'octobre, c'est faut pas être un génie pour comprendre que maintenant, même à 2800 mètres d'altitude, il peut y avoir des problèmes au niveau de la production de neige artificielle. Donc c'est quand même problématique et c'est fou de pas pouvoir penser ça, à ce genre de choses avant d'organiser une course là-bas, quoi.
Ça veut dire que le spectacle a été privilégié à la responsabilité.
Oui, plus que la responsabilité, il a été privilégié à la raison, je pense. À un moment donné, on a un climat qui évolue. Je pense qu'on est un sport où on est les premiers témoins de cette évolution qui, malheureusement, va de plus en plus vers le réchauffement. Et je pense qu'on est un sport où il faut s'adapter. Il faut s'adapter à nos conditions météo, à nos conditions climatiques et pas aller à l'encontre, en tout cas. Je pense que d'essayer de se battre coûte que coûte contre les éléments, c'est pas la bonne solution. Il y a moyen de faire différemment, d'organiser des courses plus sur la fin de saison hivernale où il y aura moyen de faire des courses dans des très bonnes conditions avec peut-être un spectacle tout aussi bien, mais je sais pas pourquoi ils ont pris ces décisions-là. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. La décision, ce qu'elle va apporter à notre sport, je pense qu'il y a plus de points négatifs que positifs. Après, peut-être que ça fera un beau spectacle, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est un non-sens, ouais.
Alors, cela dit, Johan Claret, vous êtes partie prenante dans tout ça. Cette descente entre Suisse et Italie, vous en serez. Vous-même, vous allez vous entraîner en Amérique du Sud pendant l'été. Parler, évidemment, c'est essentiel. Mais est-ce que vous tentez aussi, vous, d'agir ?
Je vais vous avouer que c'est pas évident, c'est difficile. J'agis au quotidien comme tous les citoyens. Je répète encore, je suis pas un écologiste pur et dur. Je fais tout ce que je peux pour essayer de réduire pas mal de choses, mais je suis pas un exemple, loin de là. Après, oui, et je vais être partie prenante de cette descente parce que malgré tout, c'est pas moi qui choisis les calendriers. Je fais mon sport, je fais mon métier du mieux que je peux. Je pense que je peux essayer
de faire en sorte que les choses changent un petit peu. Mais moi, je suis personne, je suis juste une toute petite voix. J'ai juste donné un petit peu mon avis sur la question. Après, c'est sûr que si on me reproche mon bilan carbone, effectivement, il est loin d'être excellent. C'est juste que si à chaque sportif qui essaie d'aller dans le bon sens un petit peu, on va lui reprocher aussi son bilan carbone, bah on ne peut pas beaucoup avancer non plus. Donc ceux qui se prennent un petit peu la parole, je pense que c'est quand même aussi essayer de les encourager, c'est plutôt aussi une bonne chose. Si on leur tombe dessus sur leur bilan carbone et sur leur pratique, effectivement, bah je pense que ça, c'est aussi pas marcher dans la cause de l'environnement. Donc voilà, je pense que on peut essayer d'être un peu mesuré sur là-dessus.
Il y a donc d'un côté un sport qui est aujourd'hui menacé par la crise climatique, et puis il y a aussi un enjeu économique énorme pour vous, les skieurs, pour les diffuseurs, pour les fédérations, pour les stations aussi en France notamment. Que pensez-vous par exemple, Yann Claret, du projet de retenue de la station de la Clusaz, cette réserve de 150 000 mètres cubes d'eau destinée en hiver à la fabrication de neige artificielle? Ça s'inscrit pour vous dans l'avenir ou dans le passé des stations de ski?
Bah, malheureusement, c'est un sujet sacrément épineux. Après, effectivement, c'est difficile de répondre à ça. Moi, je veux pas te dire que je suis contre, parce que forcément, malheureusement, on est une pratique et un sport où on a besoin de retenue d'eau et de neige artificielle. Après, je suis conscient que ça peut choquer certaines personnes, mais on va pas faire disparaître l'eau ou la transformer. Il y aura aucun additif ajouté et c'est une eau qui ne va pas disparaître. Donc, je pense qu'après, c'est sûr que c'est quelque chose qui est discutable, mais pour moi, forcément, c'est un autre débat, ça.
C'est une vraie période aussi de transition pour le monde du ski, et peut-être un modèle à trouver aussi. Alors, pour revenir sur l'aspect sportif, Yann Claret, j'imagine que dans le calendrier, vous, il y a un rendez-vous en particulier que vous avez coché, les championnats du monde de ski en février prochain à Courchevel et à Méribel. C'est pour ça que vous avez aussi voulu prolonger votre carrière malgré vos 41 ans?
Alors, c'est la seule raison qui m'a fait quasiment prolonger. Si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais été, après cette médaille olympique l'année dernière, c'était un petit peu mon Graal. Je pense que j'ai eu la récompense que j'attendais depuis tout ce temps. Maintenant, les derniers championnats du monde en France, ils ont eu lieu en 2009 et j'avais les deux genoux cassés à cette époque. Donc c'était un petit peu une période très compliquée pour moi. Et c'est un petit peu une revanche sur la vie, sur moi-même, de pouvoir essayer de revivre un événement comme ça à la maison, vraiment devant le public français. Donc j'ai surtout hâte de vivre ça. Après, l'objectif en lui-même, il sera forcément d'essayer d'aller accrocher une médaille, mais au moins de vivre cet événement, bah je pense que ça sera aussi une belle récompense pour toute ma carrière.
Voilà, d'en être chez vous sur les pistes de Courchevel et de Méribel. Merci à vous, Yann Claret, vice-champion olympique de descente, d'avoir pris la parole ce soir sur RTL. Bonne soirée à vous.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
RTL Soir se poursuit dans un instant entre grincement de dents en Macronie et nouvelle mélodie signée Soprano, les dessous de l'actu, et laissez-vous tenter dernière à suivre. À tout de suite.
Marion Calais.
RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL.
18h30.
Marion Calais,
RTL Soir.
Et le rappel des grands titres de l'actualité avec vous, Antoine Caballero.
Trois semaines après son arrestation, la justice belge refuse de remettre l'imam Iqiyoussen à la France. La décision est tombée en fin d'après-midi. Le parquet peut faire appel. Les parents de Lola demandent que cesse instamment l'utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. Une semaine après la mort tragique de la jeune collégienne, un hommage lui est rendu ce soir à Foucreuil, le village d'origine des parents dans le Pas-de-Calais. À l'étranger, après la victoire de son parti post-fasciste aux dernières élections, Giorgia Meloni, officiellement nommée première ministre d'Italie, elle devient la première femme à occuper le poste.
La météo, Valérie Quintin, des orages encore ce soir.
Oui, ça tonne en Bourgogne et dans le Massif central, orages qui remontent toujours dans ce flux de sud-ouest et qui vont donc quitter le pays dans le courant de la nuit. À l'arrière, demain, ça nous laisse un ciel ensoleillé. Alors, pas totalement partout quand même, ça restera un petit peu nuageux avec quelques averses de l'Alsace jusqu'à la région Rhône-Alpes. On aura aussi pas mal de nuages le long des côtes de la Manche, mais pour tous les autres, du soleil, des températures qui restent douces. 20 degrés à Lille demain après-midi, 21 degrés à Paris, 22 à Lyon, jusqu'à 27 à Bastia. Une douceur qu'on gardera aussi dimanche, sauf qu'il pleuvra.
On profite des rayons de soleil donc demain. Merci Valérie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Les dessous de l'actu, les dessous ce soir d'un malaise en Macronie. Le dernier baromètre BVA pour RTL vous le révélait ce matin. Plus de 7 Français sur 10 jugent que le gouvernement gère mal la crise des carburants, et ce ressenti Il est partagé au sein du camp présidentiel. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
Cette crise des carburants, même au sein de la Macronie, ça a été vécu comme un révélateur de ce qui ne marche pas en fait.
Oui, effectivement. On a merdé et on va le payer, résume un cadre de la majorité. Bah, c'est déjà le cas, au vu de la chute du président dans notre baromètre. Un conseiller a beau faire valoir que la nature d'un gouvernant, c'est de gérer les crises. Les députés se plaignent, il n'y a plus de fil conducteur. L'exécutif n'est plus occupé qu'à ça, gérer les crises et sauver l'économie.
Et ce qui agace aussi en coulisses, Marie-Bénédicte, c'est la gestion de la majorité relative à l'Assemblée.
Bah oui, toute cette semaine d'examen du budget, les députés de la majorité n'ont pas caché leur lassitude de devoir siéger de longues heures, y compris la nuit. Aurait-il mieux valu couper court plutôt qu'attendre pour dégainer le 49-3 ? Le gouvernement a voulu montrer qu'il acceptait d'enrichir les débats, sans grand succès. Du coup, les députés de la majorité se sont rebellés en proposant des amendements que le gouvernement ne voulait pas, c'est ce qu'a fait le Modem, ou en votant avec l'opposition sur un amendement comme une vingtaine de députés Renaissance.
Voilà, c'est presque plus que de la lassitude si la rébellion commence à pointer. Finalement, le reproche, c'est quoi ? C'est le manque de cap ?
Oui, c'est ça. C'est le reproche principal qui alimente les doutes dans la majorité. Je ne sais pas où le président veut nous emmener, se désole un député. Un conseiller du chef de l'État le reconnaît, il n'y a plus de récit clair pour la suite. Pourtant, Emmanuel Macron est libéré des contraintes électorales. Aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est de marquer l'histoire en prenant les bonnes décisions afin que le FN n'arrive pas au pouvoir, explique toujours ce conseiller. Il ajoute Emmanuel Macron arbitre, mais il continue à être sur tous les dossiers car il ne sait pas faire autrement. Et c'est bien le problème, car la majorité, elle, attend une vision pour se projeter au-delà des soubresauts du quotidien.
Voilà, les dessous d'un malaise en Macronie, dessous signé Marie-Bénédicte Allaire. Merci.
RTL Soir,
les dessous de l'actu,
18h33.
Laissez-vous tenter dernière.
Laissez-vous tenter dernière. Et le retour de Soprano, le rappeur, chanteur populaire, dévoile un morceau inédit et surprise. Ah oui. Bonsoir Steven Bellery.
Bonsoir à tous.
Soprano nous invite à composer le 36-15 Bonheur.
Et oui, chanson, clin d'œil aux années 80 qui ont nourri, on s'en souvient, Chasseur d'étoiles, son 7e album à succès paru il y a un an, a déjà 200 000 exemplaires vendus. Sopra revient avec un titre en forme d'hymne à la légèreté. Je lui ai passé un coup de fil.
On a vécu quand même 2 ans un peu tendus. Et je me suis dit, vu que je fais un album un peu années 80, à l'époque, il prenait le Militel, il faisait le 36-15 et il tombait sur plein d'autres choses. Je dis, ben, à peine au 36-15, bonheur, fini la tristesse, fini tout ça et amuse-toi avec nous.
Dans la chanson, vous dites, j'entends mes vieux démons me pousser à la folie. Elle a inévitablement aussi un versant autobiographique, cette chanson, quand on sait que vous avez souffert de la dépression vous-même, Sopra.
J'ai eu des moments très bas. Aujourd'hui, j'ai des moments très hauts. La pire des maladies, c'est la solitude.
Quand j'ai mal à la vie, je fais le 36-15 bonheur. C'est quoi, vous, votre 36-15 bonheur ? Qu'est-ce qui vous fait du bien quand ça va pas ?
Je vais être très bateau, mais moi, c'est mes enfants. Comme je dis, on prend souvent des jumelles pour chercher le bonheur, mais il est juste en face.
Quand j'ai mal à la vie, quand je vis sous la pluie, je fais le 36-15 bonheur. Quand la mélancolie me repeint tout en gris, je fais le 36-15 bonheur.
Steven Soprano reprendra sa tournée au mois de février.
Oui, tournée marathon pour un des artistes les plus appréciés des Français, Indiscret RTL. Soprano a déjà vendu 300 000 billets pour sa tournée 2022-2023.
Je suis de la génération qui, pour se faire connaître, on n'avait pas Internet, c'était que les concerts. Donc moi, je sors des disques pour aller sur scène, c'est ma vie. C'est pas un truc à dire, mais terminer comme Aznavour, 90 ans, être sur scène, en ayant fait toute sa vie sa passion, c'est beau. C'est ce que je me souhaite, quoi. Ça me touche beaucoup à l'heure du virtuel de voir des gens se déplacer pour acheter un billet pour toute la famille. Cette année, on a fait quand même 5 stades. C'est incroyable. Moi, ça me touche.
Vous chanterez le 6 mai au Stade de France pour la première fois de votre carrière. Ça sera une date singulière dans votre vie.
C'est quand même quelque chose de mythique et historique pour tous les artistes qui le font.
Allô, allô.
On s'en souvient au Stade de France qui avait dû être déplacé à cause des travaux du RER à côté du Stade de France. Bah voilà, elle revient, c'est le 6 mai. 36-15 Bonheur est en écoute dès à présent.
Et c'est noté dans le calendrier apparemment de très nombreux fans déjà de Soprano. Merci Steven Bellery. Et prochain rendez-vous donc dimanche matin, 9h15, pour Laissez-vous tenter avec toute la bande. Et vous Steven, autour d'Anthony Martin.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Allez, dans un instant, on refait nos régions avec des chevaux pour accompagner des malades du cancer, avec une piscine en sursis et une choucroute, mais au poisson. Si, si, à tout de suite.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.